Bonjour, c'est Christophe Prévost pour RPL, la radio du Pays Lorrain. Aujourd'hui, je vous propose un entretien avec Yanis Ristagno. Certains d'entre nous ont pu observer tout au long de l'année 2025 l'évolution des initiatives menées par ce jeune homme. Car Yanis n'a que 17 ans. Il est lycéen et il suit les cours de terminale par correspondance. Mais à côté de ça, lorsqu'il était encore au sein de l'établissement de la Salle, il a initié avec un ami le Parlement de la Salle des conférences dédiées aux lycéens pour leur expliquer comment fonctionnaient les institutions et plus largement la société en invitant des personnalités, à savoir une députée, le maire de Metz, le bâtonnier de Metz ou encore Raphaël Pitti. Au cours de l'été, il a voulu placer la barre plus haut en fondant Agora Metz pour des événements dans des lieux publics, gratuits, avec plusieurs invités sous la forme de talk show à l'américaine. Et pour mener tout ça à bien, il a créé une association dont il est le président, Grandiose. Une personnalité atypique de par son énergie, de par sa curiosité du monde et des autres, qui pourrait être fortement inspirante pour la jeunesse d'aujourd'hui. Nous l'écoutons.
Je m'appelle Yanis Ristagno, je viens de souffler ma 17e bougie, pas plus tard qu'il y a maintenant un mois, et je crois être un petit peu ambitieux, un petit peu curieux et avec la volonté de faire bouger quelques lignes.
Justement, on va parler de tout ça au travers de cet entretien. En fait, j'ai entendu parler de vous au cours de cette année et on a peu souvent l'habitude d'entendre parler de jeunes dont le nom vient comme ça à l'oreille et ça suscite forcément la curiosité. Vous faites plein de choses. Vous êtes lycéen ? Mais à côté de ça, vous êtes fondateur d'associations, cofondateur d'associations, président d'associations. Il y a trois structures dont on va parler. D'où ça vous vient tout ça ?
Alors je vous avoue, Christophe, que vous allez peut-être me faire rougir là, par tous vos compliments. Mais effectivement, c'est cette volonté de vouloir prouver d'abord aux j'ai pas envie de dire aux anciens, mais en tout cas à ceux qui ne croient pas à la jeunesse, qu'elle n'est pas uniquement connectée derrière leur téléphone portable, mais véritablement à la réalité. Et donc, avec un petit peu de volonté, parce que croyez-moi qu'il en faut pour bouger les lignes. Parce que quand vous êtes confronté à des générations plus élevées que vous, on vous regarde un peu de haut en disant « Mais pour qui ils se prennent ces petits cons-là » Je vous promets qu'on me l'a véritablement dit dans la vie de tous les jours et ça marque, c'est très formateur. Donc un petit peu de patate, peut-être une histoire de vie un petit peu marquante qui entretient un petit peu ce moteur, qui lubrifie tout ça. Et puis voilà, de la profonde conviction aussi. Loin de la politique naturellement, mais la volonté de croire en l'action, la volonté de croire en l'essence d'une jeunesse novatrice, surtout.
Alors, déjà, j'ai envie de rebondir sur ce que vous venez de dire. Si vous gênez un petit peu comme ça aux entournures, c'est que vous faites bouger les lignes, justement. Et c'est ça qui peut gêner les gens qui sont établis dans leur précaré.
Oui, mais c'est exactement ça. Alors, quand on m'a dit, pour la petite anecdote, que j'étais qu'un vulgaire petit con, croyez-moi que sur le moment, je l'ai mal pris. Mais avec le recul, c'est peut-être le signe d'une victoire qui est progressive, de personnes qui peut-être ont peur de perdre leur place. Parce que quand vous voyez arriver un gamin qui a 16, 17 ans, peut-être 18, qui va devenir majeur l'année prochaine, qui est en train de monter des projets, bah, fatalement, vous prenez la place de quelqu'un quand vous arrivez sur un marché comme ça. Mais voilà, c'est très certainement à la longue, peut-être aussi un moteur, peut-être aussi le carburant qui fait tourner ça. Parce que à partir du moment où vous commencez à être critiqué, à être dénigré, c'est pertinemment que vous êtes sur le bon chemin. Ça, j'en suis, mais alors convaincu.
Alors, il y a un terme qui m'a pas plu dans ce que vous venez de dire, vous avez parlé de marché. Est-ce que c'est pas plutôt sur l'espace public ?
Tout à fait, vous avez bien raison de rebondir là-dessus. C'est plutôt l'espace public que le marché. On n'est pas des entrepreneurs, on n'est pas des investisseurs ni des actionnaires, vous avez tout à fait raison de le souligner.
Donc, on va parler vite fait des trois structures que vous faites fonctionner, grâce auxquelles vous rencontrez du monde, vous faites rencontrer des gens, vous faites parler des gens. Alors, il y a d'abord le Parlement de la Salle. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, le Parlement de la Salle est une initiative dont je suis le cofondateur avec un autre ami, donc du bahut du même nom, naturellement, dont je ne suis plus membre parce que je ne fais plus partie de cet établissement. Mais le projet est simple, hein, pour être très honnête, c'est des conférences un petit peu traditionnelles où on sensibilise la jeunesse, donc notre public qui est à portée de main, au débat public, aux compréhensions des institutions locales, mais aussi nationales. C'est en ce sens qu'on a reçu une députée de la République pour faire un petit peu comprendre les tenants et les aboutissants de ce métier, de représentant à la fois local et national, justement, en circonscription, mais aussi à l'Assemblée. On a reçu le bâtonnier pour faire un petit peu plus comprendre cette partie du métier d'avocat qui est un petit peu inconnue. Quand on est allé présenter dans les salles de classe, eh ben venez voir le bâtonnier là, je sais plus quelle date, c'était en mars dernier, on nous regardait avec des gros yeux, mais qu'est-ce que c'est un bâtonnier ? Ben c'est aussi là notre mission de faire découvrir des choses, de faire comprendre un monde qui nous est, nous, peut-être encore trop peu familier. Et puis on a été récompensé en fin d'année par l'Association nationale des membres de l'Ordre national du mérite, notamment Anne-Marie Le Pens et Catherine Thué, que je salue d'ailleurs, qui nous ont récompensés pour cette action de civisme et ce prix à l'éducation, à la citoyenneté, avant tout. Voilà, c'est ça les piliers fondateurs de ce projet, le Parlement de la Salle.
Deuxième structure, Agoramess. Agoramess, c'est deuxième marche. Qu'est-ce que c'est ?
Exactement, c'est très bien dit, c'est la deuxième marche, c'est le même projet, un petit peu plus ambitieux, un petit peu plus grand, pour ouvrir la porte, pour faire éclore la parole à toute la ville en fait. Je suis messin, très fier de l'être d'ailleurs, un poil chauvin, et j'avais envie, non pas de cloisonner la parole uniquement à quelques centaines d'étudiants, mais aussi de faire venir, pourquoi pas, les plus âgés, les actifs, les inactifs, et de créer avec Agoramess un véritable carrefour de sensibilisation et de libération d'une parole citoyenne pour mutualiser les savoirs dans une forme absolument innovante, loin des codes académiques traditionnels. C'est, j'ai envie de dire, l'américanisation du format qui prime, avec le canapé pour les invités, le bureau de présentateur pour moi-même, et puis dans une forme un petit peu innovante, découpée en trois parties, avec l'intervention du public, des questions de présentation et des questions véritablement de fond. Et ben on débat pendant 1h15, 1h30.
Le nom n'est pas pris au hasard, l'Agora.
Tout à fait, d'un point de vue étymologique, tout est dit dans le nom, et avec l'ambition et inévitablement de créer un Agora à Metz, la véritable place publique où on se retrouvait autrefois en Grèce antique pour débattre, mais aussi pour agir. Ça, c'est important également.
Et dernière structure, la plus récente, donc la troisième marche. J'ai envie de dire quelle sera la quatrième, mais Grandiose.
Grandiose, exactement. C'est le nom de mon association que j'ai créée avec pas mal de difficultés. Parce que même chose, quand vous vous pointez, pardonnez-moi de l'expression familière, au tribunal et que vous demandez comment est-ce qu'on crée une association, les gens derrière le bureau vous regardent en disant « Mais qui va créer l'association ?» Et moi, je leur réponds « C'est moi !» Alors, j'ai vu esquisser quelques sourires quelquefois. Croyez-moi que ça m'a fait aussi un petit peu sourire en réponse. Et donc, cette association porte plusieurs projets, parce qu'il faut les appuyer d'un point de vue légal, notamment porte Agoramess. L'idée d'Agora est venue avant celle de l'association, mais quand je suis arrivé devant le fait accompli et qu'on m'a dit eh ben, il va falloir une asso pour justifier tout ça d'un point de vue légal, eh ben, j'ai créé Grandiose, le mix de grandir et oser, avec comme slogan d'ailleurs « Oser faire grandir le possible ». Je crois que tout est dit.
On va revenir plus en détail sur les trois structures et leurs actions concrètement, mais on a déjà dressé un peu le portrait. Mais du coup, qui est Yanis derrière tout ça ? D'où vous venez ?
De la banlieue Messine, j'ai grandi dans un petit village, pour le coup assez favorisé, mais qui n'est pas du tout le synonyme de ce qui était ma famille, à Rosériol, où j'ai grandi pendant, je crois, 5 ans avant de déménager. À Saint-Julien, une commune que j'ai beaucoup appréciée, et ma vie est un petit parcours de vie dont je suis, pour être très transparent, pas peu fier, parce qu'il a été jumelé de plusieurs épreuves importantes. J'ai jamais eu une enfance très, très joyeuse. Mon papa, pour qui j'ai une pensée particulière parce qu'il est décédé, subissait un alcoolisme assez sévère, et quand on est alcoolique, vous avez deux formes d'alcoolisme. Soit vous êtes très gentil, un peu rigolo, et puis vous êtes pompette complètement à l'envers, et c'est super marrant. Soit vous êtes un petit peu plus violent, malheureusement il n'avait pas le bon. Alors j'ai pendant des années avec ma famille pas forcément eu des soirées très agréables. Et je crois que c'est très formateur. J'ai subi aussi d'un point de vue santé mentale, si on peut dire ça, parce que c'est la tendance d'ailleurs de cette année et de l'année prochaine, subi des troubles obsessionnels du comportement. Croyez-moi, quand on est gamin et que vous êtes obsédé par la propreté, ça fait bizarre. Hein. Donc vous êtes fatalement un petit peu, moi j'aime bien dire que j'ai été, poussé dans l'arène du monde des adultes. Et puis quand mon père est décédé il y a bientôt 2 ans, et que mon frère est venu me l'annoncer d'une manière... je lui en veux pas parce qu'il aurait pas pu mieux faire, pour être très honnête. On y reviendra peut-être dans quelques instants. Mais c'est un parcours vallonné, peut-être un petit peu atypique, d'expériences que des gamins n'ont pas à vivre. Ça, j'en suis convaincu.
Peut-être déjà le sentiment d'être différent ?
Ah, inévitablement. Inévitablement, quand on sort du collège ou du lycée, en l'occurrence, c'était le lycée pour moi, et que vous voyez des jeunes sauter dans les bras de leurs parents, et que moi je rentrais tout seul, alors que c'est mon père qui venait tous les jours me chercher, toutes les après-midi, ça fait un petit peu bizarre. Vous sentez que vous n'êtes pas pareil, et donc fatalement un petit peu plus différent, oui, c'est ça.
Mais votre démarche est de se tourner vers les autres, essentiellement. Donc, comment est née de cette différence d'être seul, de se tourner vers les autres ? On peut se renfermer sur soi.
Tout à fait, tout à fait. Mais je crois qu'il y a... Il y a deux manières de se relever d'étapes très importantes et marquantes d'une vie. Soit finalement, on s'abat sur notre sort et puis on relève que très peu la tête de l'eau. Moi, j'ai décidé de le prendre à contre-pied et puis de nourrir un petit peu cette envie, cet état d'esprit, parce que j'ai grandi quand même dans une famille méditerranéenne. Je suis sicilien d'origine et petit-fils d'immigrés italiens, sicilien d'ailleurs. Et avec cette... comment dirais-je, cet ancrage très proche de l'humain en général. Et j'ai toujours adoré faire des rencontres, j'ai toujours adoré discuter, et encore plus d'ailleurs depuis que mon père est plus là, parce que tout n'est que rencontre, absolument tout. C'est le point de départ d'un tas de choses qui est tellement logique d'ailleurs, mais tout n'est que rencontre, et en rencontrant, je crois qu'on cultive une véritable curiosité, une véritable envie de faire avancer les choses, d'où l'élaboration de ces projets.
Est-ce qu'il y a une part de revanche dans cette démarche ?
Ah, carrément, plus fort que la revanche encore, peut-être un petit peu de vengeance sur la vie. J'ai pas un état d'esprit à 100% rancunier, mais oui, peut-être de prouver à la vie et aux gens qui à la fois m'ont pas fait confiance, à la fois m'ont pas tendu la main, que peut-être qu'ils auraient dû. Voilà, peut-être qu'on aurait pu faire des choses plus grandes, encore plus tôt. Mais en tout cas, j'avance à mon rythme et j'avance comme je le veux. Et ça, c'est primordial, je trouve, en tout cas pour moi, d'avancer comme on le veut et non pas comme les gens vous pointent du doigt et vous dictent, vous tirant un peu par le nez, comment il faut faire avancer les choses. Parce que croyez-moi qu'on me l'a dit, hein. On me l'a dit un bon nombre de fois, on m'a pas fait confiance sur tous les projets qui ont été montés. Et pourtant, ils ont été récompensés à la fois par les compliments des gens, c'est ma meilleure récompense, hein. Mais après, il y a les institutions qui viennent vous voir en disant c'est magique, nanana, nanana. Bon, enfin, effectivement, c'est ma manière d'avancer. Et c'est plutôt pas mal pour l'instant. J'espère que ça, je touche du bois, ça va me réussir un petit peu plus longtemps.
Vous dites avancer à votre rythme, mais à vous entendre, on dirait que vous dites j'avance vraiment tout doucement. Non, non, on a l'impression vraiment que vous avancez à 100 à l'heure. J'allais même faire une boutade qui a fait un peu l'actualité ces derniers temps. Vous allez vite saisir, mais où trouve-t-il cette énergie ?
Tout à fait, oui, bien sûr, c'est vrai. Et de l'énergie, croyez-moi que j'en ai à revendre pour le coup, et je ne suis pas plus âgé que les messieurs que M. Bardella complimentait. Donc effectivement, moi, dans ma perception des choses, et c'est à la fois terrible, j'ai l'impression que je suis un escargot, une tortue, que je ne fais rien avancer. Et c'est peut-être aussi une des choses qui me fait repousser les limites du possible, écarter les murs encore un petit peu plus. Parce que j'ai ce besoin presque infatigable, insatisfaisable aussi, de vouloir continuer à faire des choses. Et donc, ma pire torture, moi, c'est de ne rien faire. Ah, ça, je peux pas. Alors, les vacances et les jours fériés, croyez-moi que demain, je vais passer une très mauvaise journée. C'est la première... on enregistre ça un 31 décembre. Alors, le 1er janvier, croyez-moi que je vais m'enquiquiner à 100 à l'heure. Alors je vais devoir faire des trucs, faire marcher un peu le cerveau, parce que sinon j'ai cette impression que je suis inutile et que je fais rien avancer, et ça me va pas du tout.
C'est quand même étonnant à votre âge de penser à ça. Et puis on replace le contexte, vous êtes lycéen et vous êtes dans une année quand même un peu cruciale dans la vie d'un lycéen, c'est l'année de terminale, l'année du bac. Et malgré tout, vous vous surchargez de plein d'autres fonctions.
Oui, c'est vrai. J'ai la chance, il faut quand même le préciser, de suivre l'école à distance via le Centre National d'Éducation à Distance français, le CNED, pour parler plus facilement. Donc, j'essaye de suivre un emploi du temps assez strict, où le matin, finalement, j'ai la chance d'avoir mon bureau sur la cathédrale et actuellement la Grande Roue, qui va vite être démontée. Et donc, quand vous arrivez dans votre bureau le matin de 8h à 13h, vous essayez de bosser à fond. Et je me suis rendu compte que dans l'école, à l'école, quand vous êtes en salle de classe, nous, on avait la chance de ne pas se déplacer dans les salles de classe pour rejoindre notre professeur, et c'est le professeur qui le faisait. Mais finalement, vous perdez quand même un temps fou. Le temps d'arriver, de dire bonjour, de s'installer, de sortir le cahier, parce qu'on n'est pas toujours discipliné, de faire l'appel. Et là, finalement, sur une heure de cours, vous en passez une demi-heure. Alors que de l'autre côté, vous avez 5 heures devant vous pour faire une journée, peut-être une journée et demie si vous êtes un petit peu motivé. Et puis il n'y a que vous, de toute façon, donc il n'y a pas le professeur qui mettra le doigt où il faut y aller. Il n'y a pas le professeur qui dira « bah non, ça c'est pas bien ». Il faut se tester constamment, se mettre un truc pour se propulser, ça c'est une évidence. Et ça me laisse l'après-midi libre pour pouvoir... Enfin, l'après-midi et la soirée, d'ailleurs. Parce que si ma journée s'arrêtait à 18h, pareil, je m'enquiquinerais à foison. Pour créer, pour innover et pour y aller, tout simplement.
J'imagine là, à ce moment-là de l'écoute de cet entretien, les auditeurs doivent se dire, mais quel est cet alien ? À 17 ans, cette maturité, enfin, on vous l'a sûrement déjà dit, vous avez une maturité étonnante pour un jeune homme de 17 ans.
Oui, j'en suis conscient, c'est clair, et c'est ce qui fait cette particularité que certainement, à la fois les gens adorent, mais à la fois les gens détestent. Parce que même chose, on a ce sentiment de pour qui il se prend celui-là, alors que pas du tout, c'est ma vraie personnalité d'être un petit peu systématiquement enthousiaste, parce que croyez-moi qu'il n'y a pas de raison de ne pas l'être, vraiment. Même quand on a des problèmes, il faut toujours garder le sourire, parce que je crois qu'on attire ce que l'on est vraiment. Si vous gardez le sourire, même dans les épreuves les plus, les moins tendres en tout cas, peut-être que la vie vous sourira en retour. On en discutait juste avant le micro et l'enregistrement. Peut-être et c'est une véritable conviction, qu'il faut donner pour recevoir. Alors peut-être que je donne un sourire à la vie pour pouvoir avoir quelques rayons de soleil en plus dans la journée. Évidemment, c'est une métaphore, mais voilà, c'est ce qui fait cette particularité qui est à la fois adorée, à la fois détestée.
Tout ceci n'explique pas votre capacité d'analyser ce qui se passe autour de vous, de synthétiser les choses pour pouvoir entreprendre toutes ces rencontres que vous faites.
c'est pas faux. Et pour être très transparent et très franc, je crois que j'aurais pas plus d'explications. Je crois que j'ai pas la réponse au-delà de ce que j'avance. Je suis pas profondément convaincu par le divin ni l'inné, mais au-delà de ces arguments que je viens de présenter et de ce que je partage et de ce que je pense, je saurais pas plus expliquer qu'est-ce qui fait de moi où je suis aujourd'hui, ce que je suis aujourd'hui.
Avant de rentrer dans le détail avec le Parlement de la Salle, avec Agoramès et Grandiose, on va essayer de fouiller un petit peu plus votre personnalité. Qu'est-ce qui vous intéresse réellement, vous, à titre vraiment privé ? Est-ce que vous vous intéressez à la littérature en particulier, un type de littérature, un type de cinéma, à la culture en général, à la société, à la politique, au monde de l'entreprise ? Je ne sais pas, enfin, je lance plein de pistes, à vous de me dire.
J'ai grandi dans une famille très populaire où... La culture de la culture, si je peux dire ça comme ça, n'a jamais été la priorité. On n'allait pas franchement tout le temps au cinéma. Les livres, je vous en parle pas. Alors les musées, je les ai vus qu'à l'école. Vous voyez ? Donc la seule chose un peu qui me restait en dehors de cette culture de la culture, ça a toujours été la musique. Je suis un fou de musique. Je fais rien dans la journée sans musique. Rien. J'ai tout le temps mes écouteurs, j'ai tout le temps une enceinte branchée à la maison quand je travaille. Et d'ailleurs, je partage un tas de styles différents. Je suis un grand fan de George Michael, et dans ma playlist, la prochaine musique, c'est les années 50, 60, 70 italiennes. Rien à voir. Et puis, je peux passer du pop-rock d'aujourd'hui à Gilbert Montagné. Rien à voir. Mais c'est ce que j'adore, et à part ça, on a un animal de compagnie, un chien, Luna, dont je vous dirai pas la race parce que je l'ai trouvé dans un sac poubelle au milieu de la forêt, mais enfin, parenthèse fermée, que j'adore promener, avec qui j'adore passer des moments superbes. Et ça, c'est ma véritable activité. Et je crois d'ailleurs que les animaux de compagnie sont parfois plus sympathiques, parfois, de meilleurs conseils, bien qu'ils ne parlent pas, rien qu'avec leurs yeux et leur présence, que les humains, qui peuvent parfois être un petit peu détestables. Voilà mes deux activités, la musique, promener le chien, et au-delà de ça, ça fait très politique, et c'est pour ça que je ne l'ai pas dit, mais j'adore sortir pour voir du monde. J'habite au cœur de la ville, et donc quand la première promenade est arrivée, et que je rencontre les mêmes promeneurs, j'adore ça, et la ville se réveille avec le soleil en ce moment qui se lève un petit peu plus tard que la normale, j'ai envie de dire, en tout cas que les périodes printanières ou estivales, c'est magique. Et vous sentez l'odeur des viennoiseries, l'odeur du pain, c'est top. Je suis pas un grand amateur de, je suis pas un clubbeur comme on dit, je suis pas un amateur de boîtes de nuit, c'est pas trop mon truc, donc voilà, moi je suis assez, peut-être que les jeunes d'aujourd'hui diraient que je suis has-been s'ils savent ce que ça veut dire, mais en tout cas c'est moi et ça a le mérite d'être moi, donc...
Dans ce qu'on vient d'entendre, par moment, on pourrait penser qu'il y a un côté misanthrope chez vous, alors que tout ce que vous entreprenez, c'est d'aller vers les autres. C'est un peu paradoxal.
Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les gens sont... Je crois véritablement que si les gens n'étaient pas là, bah, je ne le serais pas non plus. Parce que tous les projets qui sont montés sont faits... j'ai pas envie de dire pour eux, donc je vais dire pour nous, parce que faut quand même pas se le cacher que j'en profite bien derrière, et croyez-moi que ça m'amuse énormément. Je sais pas si amuser c'est le bon terme, en tout cas ça me passionne infiniment. Donc oui, c'est une vraie mission aussi de pouvoir monter des choses, des projets, mais aussi des actions auxquelles j'aurais aimé peut-être un petit peu plus jeune ou à différents moments pouvoir participer. Et n'ayant pas la possibilité de le faire parce qu'elle n'existe pas aujourd'hui, et ben c'est comme tout, hein, c'est comme dans la politique. Quand au bout d'un moment, vous vous reconnaissez nulle part, ce qui est mon cas d'ailleurs, peut-être qu'un jour viendra le moment de se dire « bon bah j'y vais ». Voilà. Et c'est ce qui se passe avec les projets qui sont montés pour les gens et par les gens. Il y a une citation très connue sur la démocratie. La démocratie, c'est le peuple pour le peuple par le peuple. Je ne sais plus de qui c'est, mais en tout cas, il est américain, j'en suis presque sûr. Donc voilà, je résumerai un petit peu toutes ces élaborations de projets. Finalement, Agoramès, grandiose, c'est pour le peuple et par le peuple, pour les gens, par les gens.
Viennent de s'esquisser quelques moteurs chez vous, c'est la curiosité de l'autre, la volonté d'aller vers l'autre et que l'autre vienne aussi vers vous. Quels sont les sujets de société qui vous intéressent? Quels sont les autres moteurs? Parce que ce n'est pas tout. D'avoir envie de ça. S'il n'y a que ça, on peut faire, mais on peut rester dans son coin aussi, on peut agir vraiment que dans son propre entourage. Là, les portes, elles s'ouvrent beaucoup plus grand. Donc, quels sont les sujets de société qui vous ont incité à aller encore plus loin?
Moi, je suis très fasciné par comment dirais-je, c'est surprenant de dire ça à mon âge, mais très fasciné par ce côté très sociopolitique de la vie en général. Et je trouve ça ahurissant d'ailleurs, mais enfin bon, ça c'est plus personnel. Oui, tout ce qui se passe dans la vie en général, que ce soit, j'ai très tôt été sensibilisé à des contextes économiques où finalement, quand on allait faire nos courses, je regardais systématiquement le prix de chaque article. Parce que c'était la seule manière de pouvoir sortir avec un petit panier et non pas le caddie. Savoir expliquer qu'est-ce qui se passe par ici pour constater cette augmentation. Je pense à nos agriculteurs qui sont dans une panade incroyable. Mais c'est pareil, c'est aussi objectif. Et donc cette culture de la curiosité, baigne un peu tout. Pareil, quand j'étais plus petit, mes occupations, j'ai jamais été un très grand sportif, bien que j'adore le foot, et j'en pratiquais un petit peu d'ailleurs à la sortie de l'école Paul Langevin, il fut un temps, au City Stade. Et donc je regardais les matchs de foot, mais je regardais énormément de vidéos, que ce soit d'histoire. Je pense à notre médecin Mamie Twink et sa série HDG, qui a percé mon enfance. Je pense à aussi des vidéos de géographie. J'avais 8 ans, hein, mais j'adorais ça. Et c'est très certainement ce qui m'a fait m'ouvrir au monde avec un grand M. Donc je dirais pas que je suis pas passionné, en tout cas pas curieux d'un sujet. Je crois qu'il faut vraiment tenter de tout comprendre, en tout cas d'essayer de s'ouvrir à un maximum de sujets. Donc j'aurais pas de réponse véritablement précise sur le sujet, si ce n'est que je suis ouvert à un petit peu tout.
On vient de déceler un peu on a parlé de la maturité, un peu de rigueur dans la recherche, dans la curiosité des choses et des sujets et des humains. Mais qu'est-ce qui vous émeut à part promener votre chien?
Qu'est-ce qui m'émeut? C'est vrai que c'est pas facile. Je veux pas faire une réponse bateau, les films dramatiques, c'est pas non plus pour moi. Hein, le Titanic, désolé Christophe, mais j'ai pas pleuré devant. Voilà. Donc c'est pas pleinement mon truc. Ce qui m'émeut vraiment, c'est la misère des gens. Alors ça, et quand on habite le centre-ville, qu'il y a d'ailleurs une personne qui est décédée des suites de ses blessures causées par le froid glacial d'ailleurs de cette période hivernale, croyez-moi que ça touche un petit peu. Et surtout quand c'est à nos pieds. J'habite au 5e étage, mais tout ce qui se passe dans la rue, ça me touche vraiment beaucoup. La misère des gens, et j'en parle en ravalant ma salive, peut-être marqué par une histoire personnelle, évidemment, mais Ouais, c'est ce qui me touche un petit peu le plus d'un point de vue vraiment émotion pure.
On va tout doucement aborder vraiment les sujets qui ont fait que je me suis intéressé à vous et à votre parcours. Quelle est l'actualité du Parlement de la Salle? Donc vous êtes intervenu dans l'établissement La Salle. Est-ce que ça a vocation à aller au-delà des murs de cet établissement pour faire la même chose dans d'autres établissements? Quels sont les projets actuels?
Alors j'étais élève donc de ce lycée avec donc un de mes amis. Nous avons fondé ce projet qui était intralycéen, si on peut dire ça comme ça. Donc, et comme son nom l'indique, il n'a pas vocation à s'en aller des murs, ou en tout cas de l'amphithéâtre pour lequel il a été construit. Donc, il restera là où il est, avec la certitude très certainement qu'il continuera à être alimenté. Comme je vous disais, j'ai quitté le projet en juin dernier après avoir lancé la machine, après avoir reçu 4 invités, Nathalie Collin-Sterlet, députée de la République, François Battel, le bâtonnier dont je parlais il y a quelques instants, Raphaël Pitié en sa qualité de médecin humanitaire, qui très certainement viendra aussi intervenir dans Agoramez d'ici les mois prochains. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Raphaël Pitié. Et notre maire François Grosdidier en juin dernier. Donc le Parlement de la Salle continue à vivre, et j'en suis d'ailleurs content, parce que c'est un projet, enfant d'une co-création, si on peut appeler ça comme ça, qui m'est personnel. Donc il continue à vivre, peut-être moins régulièrement. J'ai vu passer qu'une édition sur cette période trimestrielle, donc de septembre à décembre. Donc, évidemment, puisse-t-il être à nouveau alimenté par des personnes qui acceptent de venir intervenir et par des élèves, naturellement, qui tiennent le projet, avec l'envie aussi de vouloir un petit peu aussi faire bouger les lignes et continuer sur cette belle lancée et sur cette belle propulsion que nous avions lancée avec mon ami.
Passons à Agoramez. Agoramez, c'est le projet, comme on a dit, la marche supérieure, c'est-à-dire c'est plus une seule personne mais plusieurs invités, avec vous en maître de cérémonie quelque part, à la façon un peu des talk shows américains. D'où est venue cette envie d'aller un petit peu plus loin? Et on peut rappeler que la première édition a eu lieu le 12 décembre dernier, hein, c'est bien ça, autour de l'écologie.
Exactement, oui, c'est ça, vous êtes bien renseigné, Christophe. Effectivement, j'aime dire que cette... Ce projet est à la manière de ce que faisait, donc au passé, Jimmy Fallon, parce qu'il était très bon dans ce rôle, à la fois, je trouve très drôle, et puis très, très inspectif, parfois intrusif, mais c'est aussi ce qu'on aime. Donc un projet qui s'en inspire à peu près, dont la première édition a eu lieu le 12 décembre au Cinéma Club de Metz, réunissant plus d'une centaine de personnes. Et dans cette période de marché de Noël, quand vous êtes un petit peu, vous sortez de nulle part, bah j'en étais un peu content, pour être très honnête. Je rappelle qu'une quête associative, une quête caritative, si je puis dire, est réalisée à chaque fin d'événement à destination d'une association choisie communément au préalable par les invités. En l'occurrence, c'est le groupement d'intérêt scientifique Posidonie, dont Frédéric Danhé, l'un des invités, a fait, si je puis dire, la promotion. Quelqu'un d'ailleurs que j'apprécie beaucoup, Frédéric. Donc l'écologie, pourquoi? Vous ne m'avez pas posé la question, mais je me permets. Parce qu'on a un haut lieu de l'écologie à Metz, quand même, l'Institut européen d'écologie, héritier d'un grand monsieur que j'aurais adoré connaître, Jean-Marie Pelt, dont on vient de fêter un triste anniversaire des 10 ans de sa mort le 25 décembre dernier. Pour fédérer, dans l'objectif d'une première édition, avoir le plus de monde dans le public, je crois que l'écologie parle un petit peu aux messins. Pour être très transparent avec vous, je ne suis pas profondément écolo, mais c'est un des sujets d'avenir auquel la jeunesse va être confrontée. Et croyez-moi, il va aussi nous en falloir de la force et du courage pour remonter tout ce qui y a à faire, hein, pour être très transparent. C'était ce sujet fédérateur qu'il fallait absolument pour démarrer une première édition. Voilà. C'est un projet évidemment actuel parce que il y aura une édition par mois. La seconde est en train d'être programmée avec le Centre Pompidou. Et croyez-moi que j'en suis aussi très content. On se dirige vers une date de fin janvier. J'officialise absolument rien tant que rien n'est écrit et dit. autour de l'art, de la culture. Ça va être intéressant avec la fermeture de celui de Paris. Il va y avoir un transfert d'œuvres assez conséquent, sympa, sur 4-5 ans jusqu'en 2030. Et des invités, trois invités locaux absolument superbes.
Je vous interromps. Restons sur cette première édition du 12 décembre dernier. Vous pouvez peut-être rappeler quels étaient les invités ?
Oui, pardon, c'est vrai que je suis allé vite en besogne. Patrice Costa, le président de l'Institut européen d'écologie, est venu nous partager son regard de grand reporter du groupe EBRA plus particulièrement de l'Est républicain, accompagné de Sabrina Spech, qui est une océanographe reconnue mondialement pour ses travaux magnifiques. Italienne d'origine, donc on s'est un petit peu parlé italien pendant les moments qu'on a passés ensemble, qui est professeur aussi à Normale Sup à Paris, donc elle a quand même un sacré bagage. Christian Clovers, qui est photographe et explorateur, naturaliste belge, il explore encore maintenant les pôles et les conséquences dévastatrices du dérèglement climatique sur les populations vivant sur les côtes notamment. Et enfin, le journaliste Frédéric Danhé, chroniqueur à la Marianne, mais on pourrait parler de lui pendant une demi-heure, tellement son CV est long et tellement il a fait de choses et d'interventions à droite et à gauche. Voilà les quatre invités qui ont été invités pour pouvoir mutualiser les regards, parce que tous ont été complémentaires pendant cette soirée.
Alors je rappelle que ces événements-là, ces tables rondes publiques, sont gratuites.
Oui, bien sûr, gratuites, sans inscription, ouvertes à tous, évidemment, parce que je voulais de barrières à l'entrée pour absolument personne. Si vous commencez à faire payer un ticket d'entrée, et bien vous éliminez directement une partie de la population. Voilà, c'est réglé, c'est mécanique. Il n'y a pas plus simple, c'est mécanique. Donc, dans cette volonté d'ouvrir la parole à tout le monde, c'était pas possible de faire payer un billet d'entrée. C'était pas possible. Voilà. Alors certes, ça a un coût, pour être très transparent, ça a un coût. J'ai eu la force, et j'ai encore la force de pouvoir travailler pour alimenter des projets comme ça, et de bénéficier de quelques euros d'une pension d'orphelin que mon père indirectement me reverse par mois. Et je suis pas un profond voyageur. Je suis pas un flambeur des casinos, d'ailleurs j'ai même pas l'âge d'y rentrer, et je renouvelle pas ma garde-robe tous les 36 du mois. Donc c'est ma manière à moi d'investir un petit peu cet argent pour pouvoir faire des choses que j'aime et qui ont véritablement un sens.
Reste que l'association Grandiose peut prétendre à des subventions ou prétendre avoir des partenariats, des mécènes ou quiconque qui pourront vous aider à mener à bien le futur de ces tables rondes.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'en profite pour faire un appel au pouvoir public. Je comprends bien que c'est compliqué, que ça gratte partout, parce que le budget, d'ailleurs, n'est pas voté, et les subventions, on en distribue presque un petit peu partout. J'ai établi des demandes avec une réponse favorable de la ville, sans que ça se soit concrétisé dans cette année 2025. C'est des petits montants qui sont toujours bons à prendre parce que les pouvoirs publics sont là pour entretenir des associations et faire le boulot que eux ne peuvent pas faire, en l'occurrence en ce qui me concerne en matière de sensibilisation et d'ouverture d'une parole avec la création d'événements de ce type. Donc j'ai essayé aussi de démarcher des acteurs privés en faisant valoir un argument fiscal avec pour lequel je suis en train de travailler avec le Centre des Finances Publiques pour pouvoir délivrer les CERFA, parce que c'est clair que c'est avantageux quand même de récupérer 66% quand vous faites un don d'un euro, ou de 1000, ou de 100, ou de qu'importe d'ailleurs. Donc c'est un argument complémentaire, et ça va être l'une de mes missions. J'ai pas envie de m'avancer en disant pour ce début d'année, parce qu'il faut quand même que je garde en ligne de mire mon diplôme du bac. Mais en tout cas, ça va être l'un des moteurs aussi qui continueront de faire avancer l'association dans les mois à venir. Oui, bien sûr.
Je rebondis sur un de vos propos tout à l'heure quand vous parliez de cette première édition du 12 décembre. Vous disiez que vous n'étiez pas écolo. Est-ce qu'il y a besoin d'être écolo pour s'intéresser à... Parce qu'écolo, on y met une image forcément politique, une étiquette politique. Mais là, on parle d'environnement et on parle du vivant, s'intéresser tout simplement au vivant.
Bah, tout à fait, tout à fait. Je crois que vous avez bien résumé le fond de ma pensée. Vous m'avez cerné, Christophe. effectivement, je faisais la précision d'un point de vue politique, mais comme je le rappelais juste après, c'est un sujet qui nous concerne absolument tous. Et ça, il faut en être conscient. Même si on est plus expérimenté que les jeunes, vous êtes quand même partie de la planète Terre, les gars. Hein ? Donc, vous êtes encore avec nous. Peut-être ne pas s'enfermer dans une certaine forme d'égoïsme. Et attention, je ne fais pas un propos général, loin de là, mais pensez aussi à l'avenir, parce que ça nous concerne tous. C'est l'avenir de notre planète et de notre vie, avec un grand V, et celle de nos enfants.
Vous avez déjà esquissé le prochain rendez-vous, donc c'est autour de l'art et de la culture, au Centre Pompidou-Metz. Vous avez dit qu'il y aurait 3 invités locaux. Vous taisez encore les noms, ou on peut les révéler ?
Oui, 3 invités locaux, même chose, reconnus nationalement, dont une est en confirmation imminente. Ça doit se faire d'ici pas longtemps. Après, je vais vous dire que quand vous pensez à l'art, des figures, ou en tout cas des représentants, des figures de l'art à la fois contemporain, mais aussi d'autres formes d'art, comme un musée qui est au centre de la ville, comme le musée de la Cour d'Or, on peut se douter de quelques noms. La communication devrait démarrer sur nos comptes Instagram et LinkedIn, agora.metz d'ailleurs, je me permets, pardon Christophe, cette petite promotion, début janvier, et les noms seront ensuite révélés une fois que tout le monde se sera mis d'accord sur une date. On travaille avec le Centre Pompidou, justement, et Émilie Anglaire, d'ailleurs, que je salue, pour faire ça dans les plus brefs délais et que ce soit optimal pour chacune et chacun.
Et les rendez-vous suivants, vous savez déjà à peu près les thématiques qui vont se dessiner au fil des mois ?
Oui, tout à fait. En février, on recevra 3 acteurs locaux, mais qui sont aussi, à nouvelle fois, connus et reconnus nationalement dans leur domaine du sport. Il y aura un footballeur, il y aura un ancien tennisman, d'actualité, Messin d'ailleurs, et qui organisait des événements, bon, vous l'avez tous, hein, mais je vais pas le révéler. Et puis, un dernier handballeur, ou en tout cas entraîneur de handball, et je ne le révélerai pas, même si je viens de le faire, évidemment, champion olympique en 2019, si je ne m'abuse. Donc, autour du sport, on travaille aussi une thématique histoire et mémoire, avec très certainement, pour le coup je le révèle, Philippe Charlier, qui a accepté de venir. On doit, même chose, se rencontrer, ou en tout cas à minima, passer un coup de téléphone pour définir de la chose. Philippe Charlier, je rappelle, a été le seul médecin, je crois qu'il est médecin d'ailleurs, archéologue, vous voyez bien la connaissance que j'ai sur le sujet, et c'est pour ça qu'il viendra en parler, à analyser en tout cas les restes du dictateur du Troisième Reich, en Russie, si je ne m'abuse aussi, qui devrait être accompagné, pourquoi pas, d'Eric Orsena, même chose, je travaille sur le sujet, et j'en parlais il y a quelques minutes, la proposition est faite à Mami Twink, Florian, je crois bien, pour venir nous parler, et ça c'est un bonheur personnel, de sujets historiques.
Donc là, ça nous mène en mars. Encore d'autres sujets pour terminer là, avant le bac, quoi. Vous allez faire comment si vous allez jusqu'au bout ?
Mais oui, vous avez raison, je ne vais pas tenir. C'est pour ça que, pourquoi pas un sujet gastronomie ? J'aimerais bien réinventer la chose autour de partage d'un métier qui nous est, pour les Français, quand même assez familier. Hein. Je rappelle qu'on a la meilleure cuisine du monde, ou en tout cas la deuxième. Je crois que la cuisine marocaine a été évaluée comme la meilleure du monde. Et qu'il faut continuer à la faire vivre, et surtout avec des artisans comme on en a dans le paysage lorrain, mosellan en l'occurrence. Donc pourquoi pas, pendant ce talk, hein, l'événement que j'appelle pas conférence parce que la manière, la forme ne s'y prête pas, imposer une sorte de dégustation, que ce soit du vin, je pense au domaine des Béliers qui est absolument reconnu aussi dans la France métropolitaine, à Fabrice Dumay, notre chocolatier, et pourquoi pas à Benoît Potvin aussi.
On termine là sur les sujets en prévision. Il suffit de suivre, comme vous disiez, les réseaux sociaux sur Agora Metz. Je reviens sur des choses plus personnelles. Vous allez passer le bac cette année. On vous souhaite de l'obtenir. La suite, ce sera quoi ?
Merci Christophe d'ailleurs pour vos meilleurs vœux d'abord. Pourquoi pas la suite l'envisager à Paris ? Ça, pour être honnête, c'est dans mes rêves, hein. C'est des rêves de prolétaires, ça. Hein. Donc, faudra bien évaluer la possibilité de la chose. En tout cas, une école de droit, une fac de droit pour devenir avocat. Je crois que vous l'avez entendu, j'adore parler, comme je le disais aussi tout à l'heure. Donc, et avec, pourquoi pas, rajouter cette prestation scénique, parce que quand on plaide, c'est un théâtre. Hein. Donc, si vous êtes un bon comédien, ça passe généralement pas mal si vous avez en plus des bons arguments. Donc, voilà, c'est la route qui se dessine pour moi, je l'espère, je touche du bois d'ailleurs. Et seulement si l'idée farfelue ne m'est pas venu de m'engager directement en politique. C'est posé là comme ça.
J'allais y venir, donc vous me tendez la perche si je peux m'exprimer ainsi. Je reviens sur le métier d'avocat, c'est par rapport, si je fais le lien avec Agora, Agora c'est aussi de faire parler les gens, de définir une forme de vérité collective. Est-ce qu'il y a de ça aussi derrière le métier d'avocat?
Bah carrément, carrément. Et tout le long de ma vie a été fractionné d'épisodes que j'ai jugés parfois injuste, parfois en manque de vérité, et c'est vraiment ce qui me construit aujourd'hui. C'est un besoin à l'insable de vérité et à la fois de justice. Alors quand vous mêlez les deux, et ben la profession qui s'y prête le plus, c'est le métier d'avocat. Voilà.
Et donc, avec un profil comme le vôtre, un tempérament comme le vôtre, forcément, vous devez intéresser quand même certains appareils politiques, quels qu'ils soient, de quel bord qu'ils soient. Ce genre de profil, c'est plutôt intéressant à essayer de séduire.
Eh bien, figurez-vous que pas encore. Voilà, pas encore, ça va peut-être venir. Peut-être ont-ils lu dans les journaux que j'avais seulement 17 ans, alors ils se risquent pas trop de vouloir séduire un gamin, parce que je suis certain qu'on a encore un gamin à 17 ans. Donc peut-être que le 27 novembre, jour de mon anniversaire 2026, j'aurai un petit mail dans ma boîte de messagerie Gmail. Qui sait? En tout cas, je suis pas certain pour le moment que. Une mission politique m'intéresse. Très certainement, et comme je le disais, je me reconnais nulle part. Donc à quoi bon s'engager si c'est pour s'engager pour de faux, quoi.
Nulle part, vous voulez dire, dans l'échiquier politique actuel?
Ouais, c'est ça, je me reconnais ni dans les extrêmes et pas non plus dans l'immobilisme. Parce que je crois que ça, c'est la réponse facile de dire ah bah oui, bah, je suis au centre. Ah, d'accord, bon bah on bouge pas alors, et puis on fait rien avancer, et puis vous voyez bien comment ça se passe. Donc à l'heure d'aujourd'hui, comme l'échiquier est construit, je m'y retrouve pas forcément, comme d'ailleurs des millions de concitoyens, et qui explique évidemment en partie le taux d'abstention tellement, mais alors tellement supérieur à certains de nos voisins, à part. Lors d'élections à plus grands enjeux comme les présidentielles.
Mais la politique, ça peut être aussi au niveau local, dans le sens premier du terme, la vie de la cité.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et pourquoi pas, en tout cas, je ne ferme pas la porte un jour à être un élu profondément local, ancré dans une vraie localité, pour le coup. Peut-être un village, peut-être la ville de Metz, qui sait un jour. Franchement. Je dirais pas non, pour être très honnête, je dirais pas non. Avant d'être député ou plus, d'ailleurs, je rappelais que j'étais chauvin là tout à l'heure. Ah oui, ce serait pas trop mal, mais en effet.
Ce sera ma dernière question. À part le bac, à part la réussite des prochains rendez-vous de Agora Metz, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter?
Ah, c'est une question bienvenue au 31 décembre. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? De garder la patate, très certainement, et de pas me. De pas me. Me réfréner au sens strict du terme, de toujours garder cette énergie avec le sourire et en voyant ce côté positif de la vie, bien que ce soit, et j'en parlais aussi également tout à l'heure, pas toujours tendre. Il faut garder une vraie profondeur d'engagement et d'enthousiasme. Donc, garder la patate, continuer à avancer, parfois à son rythme, mais toujours avancer.
Merci Yanis, on continuera à suivre vos prouesses.
Merci Christophe pour cet entretien.
On vous invite donc à suivre le calendrier des événements à venir d'Agora Metz sur les réseaux sociaux, comme nous l'a suggéré Yanis. Vous l'aurez compris, c'est une personnalité atypique et inspirante pour la jeunesse. Et forcément, on en reparlera. C'était Christophe Prévost pour RPL, la radio du Pays Lorrain. Bonne journée et à bientôt.